Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
La dernière heure de vos grandes gueules du sport. On est toujours avec Alizé Cornet, Ludovic Duchesne, yes. Sarah Pitkowski et Pascal Duprat. Je vous préviens les amis, dernière heure complètement chamboulée. Nouvelle, on va découvrir tous ensemble ce qu'on vous a concocté. Dans un instant, les GG sur le buzzer, alors que la Coupe du Monde de rugby féminine débute ce soir pour nos Bleus. Donc Sarah vous l'a bien vendu face à l'Italie à 21h15.
Je crois suivre que c'est sur moi AMC. Qui est mieux vendu, non ?
Franchement, c'était pas mal.
Ouais, hyper
après,
bien.
Tu sais, c'est ma première, je suis politique, je dis à tout le monde, c'était toi le meilleur. C'était toi la meilleure. C'était toi le meilleur. C'était toi la meilleure. Le sport féminin est-il en train de s'installer en France ? On va en débattre. Et puis, surtout la grande nouveauté. On va jouer ensemble. T'es un joueur, Pascal ?
Oui.
Ouais. Parfois un parfois un peu mauvais joueur aussi.
Ah, ça c'est sûr.
Genre, non, jamais mauvais ouais. joueur.
C'est vrai. Chaque fois que vous mettez une visite de disco sur Pascal, c'est fait exprès. C'est vraiment c'est l'ambianceur, Pascal. J'ai l'impression. Hein.
Oui, non,
en
oui,
mois de nuit, Pascal, il détonne. Hein,
Merci Ludo. Merci de venir en secours, Ludo.
Il nous fera une photo de la garde-robe qu'on voit si ça colle.
Moi, je l'imagine bien.
Fou en soirée, Pascal.
Mais genre Monopoly. Si tu perds en Monopoly, ça te va pas, quoi, Pascal.
Mais en fait, j'aime bien jouer. Ouais. J'aime comme tout le monde gagner, mais j'accepte la défaite. Mon parcours me l'a appris, en fait, tout simplement.
Quelle humilité. Jean-Christophe Drouet m'envoie un message. En même temps, il a eu beaucoup de défaites.
Jean-Christophe, c'était sa vanne préférée me concernant. Tu sais.
Ce qui est bien, c'est que quand je vous dis une vacherie, je peux vous faire croire que c'est JC qui m'a envoyé un message, alors qu'il m'a rien envoyé. C'est comme ça.
Ouais, techniquement, je vois pas comment. Il a eu le temps là.
Que ça, je me couvre et je me fâche avec personne.
Attention, Jean-Christophe Drouet, il est en place. Il est en place, le mec. Attention.
J'y sais, vous allez le retrouver avec Julien Cazard dans les nuits du Cazard enchaîné à partir de lundi jusqu'au vendredi de minuit à 1h30 du matin. Il vous accompagne le matin maintenant. Et vous allez dormir avec lui ou ne pas dormir. Très important, vous écoutez la musique des Jeux. RMC, c'est votre nouveauté en fin d'émission. Vous jouez avec les GG. C'est du 2 contre 2. Un auditeur avec chaque groupe. C'est des questions de culture générale, sport. C'est un peu comme Trivial Poursuite, mais vous tombez à chaque fois sur la question orange, sport. Ça devrait être facile. Ce week-end, remporter une enceinte portable Mino 10 de Lexon. C'est une enceinte Bluetooth. Pour participer, remporter cette enceinte et participer avec nous, appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. On vous attend pour jouer avec les GG. Mais tout de suite, les grandes gueules du sport, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors c'est une petite nouveauté dans votre vestiaire, les amis. Vous allez vous confier, échanger sur votre vécu, partager vos expériences parce que vous en avez tous et toutes énormément. Débattre ensemble à partir d'un sujet d'actualité. Cette semaine, on veut parler de la volonté de Ligue 1 Plus. Vous savez, le nouveau diffuseur du championnat de France, d'accéder à plus de moments intimes avec les clubs. Alors certains sont pour, d'autres moins, comme Louis Saint-Riquet. On l'écoutera tout à l'heure, le coach parisien. Les GG, ce qui m'intéresse, c'est comment vous, parce que tous dans votre carrière de sportif et même de journaliste, Ludo, vous avez vécu l'immersion des médias dans votre intimité de sportif ou de journaliste pour avoir joué avec ça. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre cette immersion encore un peu plus parfois ? Pascal, je voulais commencer avec toi puisqu'on parle de foot et toi, tu as quand même ouvert dans ta carrière. Raconte-nous.
Oui, j'ai connu deux époques, celle quand j'étais joueur où le journaliste de la presse régionale quotidienne s'installait dans l'avion, venait avec nous, rentrait dans les vestiaires
autre
sans
époque.
Problème. C'était une autre époque, et puis ensuite avec l'arrivée de Canal, la multidiffusion des matchs de foot, et aussi cette volonté, donc ces clientèles qui a besoin de plus en plus, de connaître le foot, ses arcanes. Eh bien, j'ai connu aussi l'ouverture des vestiaires, ça m'est arrivé. Je l'ai fait une fois, par exemple, à Toulouse.
Bien
tout
sûr.
Le monde, apparemment, s'en souvient.
Et
en fait, que vous dire d'autre que ça fait partie de notre métier, que c'est, ma foi, quelquefois agréable, surtout souvent agréable, quand on a affaire, ce qui est généralement le cas, à des gens bienveillants du monde de la corporation des journalistes, des gens qui respectent les règles. C'est encore une fois souvent le cas, pas toujours, quelquefois, eh bien, il y a des journalistes qui ne respectent pas le deal qui a été passé, eh bien, à votre corps défendant, ben vous le prenez dans la gueule, c'est comme ça, hein. C'est la vie, mais cela dit, on a besoin des uns des autres, et je voudrais juste faire une petite parenthèse, grâce à vous, grâce aux médias, le fait d'être consultant m'a permis d'appréhender le métier de journaliste que je connaissais peu, ma foi, d'une autre manière. J'ai vu qu'il y avait des gens très compétents, il y avait des gens qui travaillaient beaucoup, alors que je pensais que quand on disait d'un de mes matchs à l'ETG qu'il était pauvre, je pensais que en fait on me visait en permanence. Non, en fait, ils ne faisaient que reproduire ce qu'ils avaient ressenti, à savoir être pertinent, certes, mais aussi objectif. Donc voilà, ça m'a permis de non pas de me réconcilier, j'étais fâché avec personne, mais je peux vous dire que l'ouverture, elle fait du bien, elle permet aux gens de découvrir notre sport de l'intérieur. Par contre, attention, on ne peut pas tout montrer. Voilà, pas tout. Un peu, beaucoup, mais pas tout.
Et Pascal, quand tu ouvres ton vestiaire à Toulouse, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu prends un risque aussi parce que...
Mais en fait, il faut, Ludo, il faut savoir, bah, tu es partie prenante, tu étais à Canal. Donc, si t'es mieux, je bossais pour Canal quand j'ai été entre l'ETG et Toulouse, 6 mois ou 7 mois sans boulot. J'étais à une émission qui était fameuse avec également Julien Canard
et Cazard.
Cazard et Stéphane Guy.
J'ai plus un.
Ouais, c'était marrant. C'était le nom de mon agent, en fait. C'était le nom de mon agent. C'est Oudoul Lapsus. et en fait, eh bien, c'est Laurent Salvaudon qui était le rédacteur-chef de cette émission, qui un jour, quand il voit, il pressent que Toulouse va probablement se maintenir, en tout cas qu'il va y avoir un match décisif, eh bien, il me dit, Pascal, est-ce que 48 heures, tu accepterais qu'on te suive et qu'on suive l'équipe? Bah, j'ai demandé simplement, j'étais d'accord, mais j'ai demandé l'avis à ma direction. Je pensais vraiment que ça allait faire du bien au Toulouse Football Club que de montrer un peu les coulisses d'un possible exploit, parce que ça a été un exploit.
Et Pascal, ça a changé un peu ta vie aussi, pour le coup, d'avoir ouvert les vestiaires. Non, mais c'est vrai, tu parlais de ta causerie tout à l'heure.
Malheureusement, je n'ai pas eu le droit de conserver les droits. Non, mais si j'avais conservé les droits, ça aurait vraiment changé ma vie.
Non, mais raconte-nous, c'est vrai que cette causerie, le fait d'avoir ouvert... En fait,
le caméraman qui était là avec nous avait l'habitude de faire intérieur sport. Donc, au bout d'une heure, je l'avais oublié. Il est venu 48 heures avec nous. J'avais oublié qu'il était là. Donc, j'étais simplement naturel. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je donne encore des confs. Je fais des conventions avec des boîtes. Et c'est surtout grâce à cette causerie qui, apparemment, est devenue mémorable. Donc, changer ma vie, ça n'a pas changé bien ma sûr. Vie, qu'on soit bien d'accord. Mais souvent, quand on me parle de ma carrière, eh bien, on me parle souvent, ou en tout cas, on ne manque pas d'évoquer cette, je ne vais pas dire fameuse, mais cette causerie.
Et ça a créé quelque chose de positif autour de toi, peut-être la perception du journaliste Ludo Duchesne, comme Pascal le disait, tu as bossé à Canal. C'est un jeu difficile parfois. Bah, déjà, l'accès, évidemment, à l'intimité des sportifs, mais le rapport de confiance dont parlait également Pascal, avec le sportif, il y a des choses qu'on montre et des choses qu'on montre pas.
Non, mais c'est primordial. Moi, j'ai toujours cherché, j'ai fait beaucoup d'interviews, notamment pour le Canal Football Club, où je recherchais ce lien de confiance avec les sportives ou sportifs de haut niveau. Donc, c'était donnant-donnant, en fait. Et ils me faisaient confiance, et en retour, je leur rendais. Si je ne leur rendais pas en retour, la confiance s'estompait. Et dans ces cas-là, il n'y avait plus de relations. Donc, j'ai vécu des grands moments aussi avec... mesdames, mais surtout avec des fouteux qui m'ont accordé leur interview exclusive. Donc c'était aussi la force de Canal, évidemment, mais c'est vrai que je me rappelle de plein d'interviews où tout d'un coup on te fait confiance. Je me rappelle de Payet qui m'ouvre ses portes alors que la semaine d'avant il vient de s'insulter sur le terrain avec Florian Thauvin, c'était déjà l'OM. Donc ça a été des moments très forts. Donc
il a été viré.
Qui oui.
Ah, allez, on y revient. Non, en plus ils sont restés tous les deux. Donc, à l'époque, je crois que c'était Vincent Labrune, en plus le président. Mais non, il est resté évidemment. Donc, ce lien de confiance, il est primordial. Je pense que Alizé et Sarah diront la même chose. Mais quand un sportif te fait confiance, il faut lui rendre. Et il y a des choses, par exemple,
ça se construit, on est d'accord.
Ça se construit, ça prend du temps.
C'est pas, ça se fait pas comme ça.
Et ça permet aussi, Sarah et Alizé, de peut-être de se dire les choses. Par exemple, on m'a dit, des fouteux lors d'interview me disaient, hey Ludo, ça, est-ce que tu peux enlever cette phrase? Est-ce que tu peux? Ben oui, parce que c'est un échange, parce qu'on est ensemble. Alors je le disais pas à Karim Nedjari, parce que Karim, il voulait qu'on n'enlève rien. Donc je lui disais surtout pas. Mais du coup, non, mais c'était un oui parce que je savais qu'il me le rendrait et que la prochaine fois qu'il s'exprimerait, ça serait à mon micro. Donc c'est comme ça que je vois mes rapports avec les sportives et sportifs de haut niveau. Et ça a toujours été très fort. Moi, j'ai adoré, j'adore toujours ces liens qui sont pour moi très forts avec
On est dans le vestiaire des GG du sport. On parle de l'intimité auquel veulent avoir accès les médias, une immersion dans votre quotidien de sportif, parce que Ligue 1 Plus, le diffuseur veut avoir de plus en plus d'histoires à raconter en se rapprochant des sportifs. C'est intéressant d'avoir votre expérience dans le tennis, Alizé. Les caméras, on les accepte partout?
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Ludo, il ne faut pas oublier que les journalistes sont les vecteurs entre les athlètes, les joueurs et le public.
Ça, tout le monde ne le comprend pas aussi.
Oui. Donc, autant. En tout cas, moi, c'est la philosophie que j'ai eue dès le début de ma carrière. C'est autant être complètement transparent avec eux, autant construire cette relation de confiance dès le début. Et ils me l'ont rendu au final. Parce qu'au final, quand on se livre, quand on livre ses émotions, quand on livre quelque chose de vrai, ben en retour, on a des journalistes qui sont un petit peu plus compréhensifs, un peu plus bienveillants. Les conférences de presse ne se transforment pas en moments de souffrance, mais en un moment qui fait partie du boulot. Et au final, c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir les journalistes, d'avoir cette confrontation juste après une défaite ou un moment difficile. Mais moi, c'était comme une sorte de famille que je retrouvais en fait, et c'était presque ma thérapie. J'allais leur parler de mon match, de mes ressentis, et c'était devenu un moment relativement agréable. Mais alors après, je suis un petit peu plus tranchée par rapport à on va dire.
L'intimité vraiment dans l'avant-match, par exemple.
L'intention vraiment du média au sein du vestiaire. Moi, je trouve qu'il doit y avoir quand même des compartimentations. Ça se dit pas, mais on peut compartimenter entre les moments où les joueurs vont donner de leur temps aux journalistes et l'espace qu'on doit donner aux athlètes où ils peuvent garder leur intimité. Ils ont leur routine. Ils ont vraiment le droit d'être eux-mêmes.
T'as eu des mauvaises expériences, toi?
Ça, on l'entend tous, ça, Lisa.
Ouais. Si on met des caméras
en tennis,
partout,
les portes sont souvent fermées, quand même.
Alors, les portes sont souvent fermées, mais lors de Roland-Garros, on a quand même le choix d'avoir une journaliste qui nous suit avant nos matchs.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai donné la chance à la journaliste de me suivre peut-être une ou deux fois.
Avec une caméra,
j'ai pété un plomb. Ouais, j'ai pété un plomb parce que ça me correspondait pas du tout d'avoir une caméra derrière moi qui me regardait quand j'étais en train de me coiffer devant la glace.
Ouais, parce que tu te coiffes beaucoup.
Ça. Bah oui, en plus je passais des heures, donc forcément c'était j'avais l'impression d'être un peu psycho, mais il y avait cette violation un petit peu de cette intimité où moi j'avais envie d'être seule avec moi-même, de me concentrer, et je sentais que c'était un parasite. Et donc au bout de la troisième fois, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais beaucoup vous livrer ce moment d'intimité pour que les gens apprennent à me connaître et pour que finalement ils nous accompagnent avant le match, mais c'est hors de portée pour moi. J'arrivais pas finalement à être complètement apaisée avec ça. Et en même temps, maintenant que je suis quasi à la retraite, je me mets du côté du spectateur et on a envie, on est curieux, on a envie de savoir ce que l'athlète il vit dans les coulisses. On a envie de s'identifier un petit peu à eux.
Faut trouver l'équilibre.
Il est vraiment pas évident à trouver cet équilibre, mais c'est important quand même de laisser de l'espace aux joueurs et de respecter un peu ces moments de solitude.
L'immersion des médias dans votre intimité de sportif, Sarah.
Alors moi, j'ai pas vécu l'entre-deux, parce que quand je jouais, les médias ne se déplaçaient pas, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc en fait le.
Mais pas la télé.
Ludo, elle est en noir et blanc. D'accord?
Ludo,
tu nous parles d'une autre époque, c'est pour ça.
T'avais pas de zapette, en fait.
Exactement.
Il y avait que Christophe Sessieux.
Il fallait se lever et appuyer sur le bouton.
Tu peux mettre une petite musique triste?
Non, ce que je veux apporter dans mon témoignage, c'est que le tennis est un sport qui se joue à travers le monde toute l'année. Et finalement, les seuls moments où on était sous les projecteurs, c'était sur les tournois du Grand Chelem. Quand on allait au fin fond de l'Indonésie ou au fin fond de l'Amérique du Sud, autant dire qu'il n'y avait pas de médias français. Mmh. Et à l'époque, ça ne se faisait pas d'avoir le numéro de téléphone du joueur et de l'appeler à la fin de son match en disant « Bon, bah, alors comment ça s'est passé ?» Donc en fait, il y avait une distance entre les médias et le joueur tennis parce qu'on ne le côtoyait que de manière très, très sporadique. En revanche, quand après j'ai arrêté et que j'ai commenté le tennis, ma volonté de commenter, c'était d'expliquer pourquoi il y avait ces comportements, ces changements. Et en fait, j'essayais d'expliquer ce qui se passait derrière.
Et donc, tu as besoin d'avoir des accès, du coup, pour comprendre.
Oui, mais au début, je l'expliquais par rapport à mon expérience, en fait, pour qu'on comprenne mieux le match de tennis. Et puis, petit à petit, sont arrivés des éléments de contextuel, de communication, de médias, de caméras qui ont fait que on a vu l'envers du décor. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus consommer du sport sans l'envers du décor. Mais où est la limite?
Ouais. Ça, c'est un peu le problème du tennis aussi, on en a parlé tout à l'heure.
Justement, on a un appel au 32-16 de Lionel, fan de tennis, un appel de Mougins. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
T'as une question à poser dans le vestiaire des GG, c'est ça?
Ah bah oui.
Dis-nous.
Alors on va prendre la petite nouvelle, grande gueule.
Question pour Alizé Cornet, vas-y.
Je crois que c'est une niçoise.
Bah oui, Mougins, c'est quasiment un
habitant. J'ai eu le privilège de la croiser sur quelques terrains de padel et tout ça. Donc,
elle est sympa,
en boîte de nuit, non?
Vas-y Lionel.
Alors là c'est justement ça risque pas. C'est bien les terrains de padel.
Lionel, ta question.
Voilà une petite question justement par rapport à ça. Il y a eu quelques sportifs dont Netflix s'est approché d'eux pour faire quelques reportages. Et si je ne m'abuse, il y avait eu même Caroline Garcia qui avait eu
pas sur Netflix. Bah, en tout cas, il y a eu une série Netflix qui s'appelait Breaking Point pendant deux saisons, qui a été arrêtée à un moment donné parce qu'il y avait notamment.
Alors, t'as fait un mix entre Breakpoint et Breaking Bad.
Alcaraz dernièrement.
Question du coup, Lionel.
Du coup, ta question, Lionel.
Alors du coup, je me dis, s'il avait proposé à Alizé, parce que premièrement, ça l'aura intéressé, parce que c'est assez novateur, c'est intéressant, et comment elle l'aurait abordé? Elle aurait été vraiment ouverte sur tout, ou il y aurait eu des détails où elle dit, bah attendez, là c'est trop, je veux pas trop divulguer, parce que je sais que, je dis pas de bêtises, j'espère statistiquement, tous ceux qui avaient passé cette émission, comme par hasard derrière, les résultats, ils n'y avaient pas trop suivi.
Ouais, on appelait ça la...
La malédiction
de la série. Alors, merci pour la question. Déjà,
est-ce que tu aurais accepté?
Dans un premier temps, Netflix. Je pense que Netflix ne se serait jamais intéressé à ma carrière. Bon, ça, c'est... Oh. Donc, si elle s'était intéressée à moi, enfin, si Netflix s'était intéressée à moi, ça aurait été un bon problème. Parce que je pense que c'est une belle chose d'être médiatisée. Ça permet encore une fois aux gens d'apprendre à mieux nous connaître. J'aurais sûrement accepté. Et si j'avais accepté, j'aurais vraiment tout donné. Parce que il n'y a pas d'intérêt de faire un reportage si on dévoile pas complètement qui on est, si on montre pas toutes ses failles, ses faiblesses, ses forces, si on rentre pas dans l'intimité profonde du joueur. C'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le reportage de Carlos Alcaraz, contrairement à Breakpoint où j'ai trouvé ça totalement superficiel.
Et puis faux.
Ouais. C'est un peu mise en scène, on sentait.
Ouais, non, mais c'était quoi.
Carlos Alcaraz a fait une série en 3 épisodes sur
ça. On a fait allumer d'ailleurs là-dessus.
Oui, c'était mérité. Hein. Et Alcaraz, on a vraiment appris à savoir qui il était. Et je pense que c'est important, si c'est son choix, de donner le maximum d'informations aux médias et de faire que la série est qualitative grâce à cette information.
Alors pour le coup, il y a aussi un intérêt, Sarah. On en a parlé en préparant ce vestiaire. Effectivement, quand tu es joueur du top 100 dans le tennis, tu gagnes plutôt bien ta vie. Mais moi, j'ai souvenir de séries, je crois que c'était pour Prime Video, pour pas les citer, avec des joueurs français au-delà du top 100, oui, qui avaient intérêt aussi finalement à se montrer, parce que économiquement aussi, ça peut apporter quelque chose de montrer l'intimité.
Parlons des
choses importantes aussi.
Exactement.
Voilà.
Aujourd'hui, le fait de pouvoir se mettre en scène, d'avoir une communauté, ça a une valeur marchande. Qui dit valeur marchande, tu le monétises. Et finalement, tu peux monétiser une partie de ce que tu es ou de ce que tu fais indépendamment de tes résultats. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. Tu ne gagnais de l'argent que si tu performais. Aujourd'hui, ton équilibre financier en tant que sport individuel, il est autant finalement sur tes résultats, mais ce que tu peux représenter, le personnage que tu crées, la monétisation.
Et donc, tu es une petite entreprise dans le tennis.
Ouais, absolument. Ouais. C'est la grande différence.
Après, quand on se plaint des réseaux sociaux en disant on se fait insulter sur les réseaux, c'est invivable, et que les gens nous disent, mais vous avez qu'à vous enlever des réseaux sociaux. Oui, mais en fait, nous, les besoin. Réseaux, c'est une valeur après, marchande.
Et c'est comme ça qu'on vient de chercher et qu'on paye.
Après, Sarah, réaliser, c'est pas toujours évident. Alors là, on a deux bêtes de scène, deux bêtes de médias sur le plateau avec Alizé et Sarah. Mais
Pascal est pas mal.
Pascal, il est en boîte déjà là. Mais non, mais sérieusement, en fait, les sportifs aujourd'hui et sportifs ne
comprennent pas toujours le lien ou l'intérêt qu'ils peuvent avoir. D'ailleurs, Alizé l'a effleuré un peu à se dévoiler. Moi, je vais vous raconter une anecdote.
Tu penses qu'ils ne comprennent pas ?
C'est pas toujours évident.
Moi, je pense qu'ils le comprennent beaucoup trop pour certains.
C'est pas évident. Il y a de méfiance et c'est vrai que certains journalistes qui ne méritent pas non plus qu'on se confie à eux.
Il y a eu des abus, c'est pour ça.
Je me rappelle d'une interview que j'avais faite avec Alexandre Lacazette. Mmh. Et voilà, quand, à son époque lyonnaise, la première époque lyonnaise où il était aussi en équipe de France, qui juste avant l'interview me dit, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de te parler, j'aime pas les journalistes, je vous fais pas confiance. Donc voilà, moi j'étais pas là avec pour mon lien avec lui, j'étais là parce que son agent, David Venditelli, pour ne pas le citer, pensait que c'était bien qu'il communique parce qu'il avait quelques petits soucis de communication et notamment avec l'équipe de France. Donc moi je suis là pour le rassurer, je suis là pour lui dire que ça va bien se passer, etc. Mais c'est pour rappeler aussi que ce lien n'est pas toujours évident et qu'il y a des sportifs qui ne comprennent pas l'intérêt et qui sont pas à l'aise.
C'est peut-être aussi qu'on les a pas préparés pendant leur formation.
Je prends
le cas des footballeurs, mais ça tombe sous le sens qu'on a besoin des médias, on a besoin d'être mis en lumière, bien sûr principalement par nos performances, mais aussi par le traitement qu'on va donner à votre performance. Donc il faut que, d'ailleurs, en tout cas dans notre sport, le football, de mieux en mieux, on arrive à préparer les joueurs,
appréhender les
médias,
les attitudes. Dans le tennis, ça se fait avec le média training, exactement, voilà. Chez les jeunes. Ouais.
Mais Alizé, moi j'avais une question à te poser aussi, parce qu'on parle de l'immersion des médias, tu fais partie de la génération actuelle du tennis. Aujourd'hui, la question se pose sur... Mais non, mais en tout cas, tu vis avec les réseaux sociaux, et aujourd'hui, on peut se passer des médias quand on est sportif et passer directement auprès du public. On voit Yannick Sinner, le fait, il a une page YouTube aujourd'hui, il partage un petit peu son quotidien. Certains ont des podcasts, on a parlé de Caroline Garcia tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on est sportif, toi par exemple, tu te poses la question et autour de toi sur, est-ce que j'ai besoin des médias, est-ce que je peux pas être mon propre média?
En plus, moi j'ai eu les deux. J'ai commencé ma carrière en 2005, il y avait pas les réseaux sociaux, pas du tout. Ils sont apparus vers 2008-2010 où d'un coup ça a explosé. Donc il y a eu cette période d'adaptation. Au final, on apprend à vivre avec un nouveau réseau, quelque chose de nouveau pour communiquer avec les gens. Alors, je trouve ça bien d'avoir une plateforme qui permet de se dévoiler de manière, on va dire, indépendante avec les spectateurs, avec les fans de sport. Mais c'est quand même bien de garder ce travail d'équipe quand même avec les médias. Les médias, c'est une partie complètement à part entière, en fait, du métier. Il faut apprendre à la dompter, il faut apprendre à l'accepter. Et au final, moi, j'ai tendance à me dire qu'un joueur qui va faire ça de son côté, il passe à côté, finalement, d'une de ses expérience aussi professionnelle, c'est-à-dire bosser avec les médias et ensuite ça peut amener vers une reconversion.
Mais il gagne aussi de l'argent directement parce que c'est sa propre plateforme. On parlait d'être sa petite entreprise tout à l'heure.
Mais est-ce que Sinner a besoin d'argent ?
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Non, mais
en tout cas, de cet argent-là.
Le sport en direct, il n'est pas retransmis par tes réseaux sociaux. Le sport, c'est la seule, aujourd'hui, c'est le seul événement que tu continues à voir en direct de manière quotidienne. C'est la sphère médiatique qui retransmet le sport en direct. Après, encore une fois, si tu estimes que tu n'as pas à t'adresser aux médias qui retransmettent ta performance, et ben tu t'étonnes pas de ce qui est dit sur toi.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Tout simplement.
En fait, c'est donnant-donnant. C'est exactement ce que tu disais, Ludo, tout à l'heure.
Parfait. Bon, vous allez continuer de nous parler, j'espère, les sportifs. Pascal nous aime un peu mieux maintenant depuis qu'il a... Et il est passé de l'autre côté. J'aime bien ça, passer de l'autre côté.
Oui, il y en a quand même que j'aime pas du tout. Oui. Ça sera définitif.
C'est d'ailleurs pour ça, Pascal, que Jean-Christophe
n'est bien
plus là aujourd'hui.
Ce qui est important pour clore, c'est la sincérité que vous dégagez. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu être moi-même, au travers des médias, sans médias. Voilà. J'ai envie que mes amis me reconnaissent, y compris quand je suis en train de parler avec vous.
Pascal était ce qu'on appelle un bon client.
Oui, effectivement.
Un bon client.
Mais exactement. Sa voix et son verbe, Pascal a toujours été très bon.
Allez, on referme ce vestiaire des GG. C'était très intéressant de vous avoir et sur cette thématique-là. Et on va à chaque fois essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce type de sujet pour avoir aussi vos expériences, partager quelques anecdotes qui servent à donner un peu d'épaisseur à certains sujets parfois. Bah tiens, dans quelques instants, on va s'écharper quand même une dernière fois, les amis. Les GG sur le buzzer. On va parler du sport féminin. Est-il en train de s'installer en France alors que les joueuses de rugby, nos françaises, débutent ce soir la Coupe du Monde. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Allez, c'est la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Dans un instant, j'espère que vous êtes prêts. Alizé Cornet, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne, Pascal Duprat, les GG du sport avec moi, parce qu'on va inaugurer les premiers jeux du sport. Vous êtes tous des compétiteurs autour de la table. Hein.
Ensemble.
Ouais. Alors, on a un petit groupe WhatsApp. Pascal Duprat vient de nous envoyer un message. C'est maintenant le jeu. Patiente un peu, Pascal. Patiente un peu. C'est dans 10 minutes. Je vous rappelle, 2 contre 2. Vous avez un auditeur avec vous et ce sont des questions de culture sport. Donc, normalement, vous pouvez tous répondre. Mais attendez, ne soyez pas si pressés avant de jouer parce que d'abord, il y a ça.
Pauline Ferrand-Prévot est la reine de ce Tour de France femme. Allez, la ligne d'arrivée est dans quelques mètres. Pauline Ferrand-Prévot vient de passer la ligne, les bras levés. Évidemment, les émotions, mais c'est la reine. Elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France femme. Le maillot jaune sur les épaules, 2 victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France.
Quel but incroyable de Delphine Cascarino, exceptionnel. Elle fait un premier passement de jambe, elle accélère, elle revient dans l'axe. Elle a un petit peu de champ, personne ne l'attaque. Et à 25 mètres, elle décroche une frappe en pleine lucarne devant Dom Solaire. Quel but, 3-2 pour l'équipe de France face aux Pays-Bas.
RMC, les GG sur le buzzer.
Vous avez vu sur RMC, on vibre avec le sport féminin ces dernières semaines. Vous avez entendu le sacre de Pauline Ferrand-Prévot. Vous avez entendu l'Euro féminin de football également. Et ce soir à 21h15, France-Italie à Exeter, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby féminine en Angleterre. À suivre sur RMC bien sûr, mais ce sera aussi, comme le disait Sarah tout à l'heure, en prime time sur TF1, comme tous les matchs des Bleus. La visibilité du sport féminin a évolué depuis l'année dernière. Il y a plus d'événements protégés. Et on va vous poser la question donc ce matin dans le buzzer. Le sport féminin est-il en train de s'installer en France, les grandes gueules du sport? J'ai 2 oui à Lisée et Pascal et 2 non, Ludo et Sarah. Sarah, on va commencer par toi. Non, le sport féminin n'est pas en train de s'installer en France ou c'est un non mais?
Non, mais il est en pleine ascension. Ça date pas d'il y a, ça date pas de l'année dernière. Ça fait un moment que le sport féminin est au cœur des réflexions. Pour preuve, on a appris il y a 10 ans, en tant qu'a été mis en place il y a 10 ans par le CSA, cette fameuse semaine du sport français où on devait diffuser beaucoup de disciplines féminines sur les différentes plateformes. Donc ça fait un moment que ça dure. En revanche, il ne faut pas se tromper. Pour que ça puisse se faire et que ça continue à monter, on a été mis sous contrainte, notamment par cette semaine du sport. Elle a été imposée et puis elle est forcément liée à de la performance féminine. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre du sport féminin pour mettre du sport féminin. Il faut qu'il y ait une performance. Et je pense que ça, elle est en train de s'installer. Mais attention, pour qu'elle puisse s'installer durablement, elle est forcément liée à un autre ingrédient, c'est la professionnalisation. Il faut que, et notamment je parle des sports collectifs, il faut que les sports collectifs féminins puissent se professionnaliser. Si on se professionnalise, on a des financements. Si on a des financements, eh bien on progresse. Et donc on va regarder du sport avec des vraies performances. Je lisais encore un article, on a 10 ans de retard en rugby féminin par rapport à l'Angleterre.
Qui a beaucoup gagné au rugby, hein, les Anglaises.
Qui a beaucoup gagné, mais elles ont de l'avance. Donc en fait, oui, enfin, quand je dis non, c'est pas nouveau. Pour autant, attention, il faut continuer à ce que ces sports se professionnalisent. Sinon, le retour de boomerang risque d'être dangereux.
Sarah, le sport, tu parles des sports collectifs. On va prendre les deux sports en France référence. Pardon pour les autres, le football et le rugby. Oui. Ils sont professionnels aujourd'hui.
Les équipes en France.
Depuis peu. Hein.
Les équipes de France, pas le championnat de rugby féminin.
Depuis peu. Si je prends donc mon sport, le foot, moi j'ai dit que oui, aujourd'hui la médiatisation est là, est favorable à l'épanouissement durable du sport féminin, et tant mieux, mais moi je mets juste une condition. Il faut maintenant gagner.
Oui.
Si je prends l'équipe de France féminine de foot, elle est trop décevante sur les compétitions internationales de manière trop récurrente. Donc attention, cet équilibre-là
est
fragile. Pardon,
faut gagner.
Rien
non, je suis désolé.
Bah, si.
Faut gagner. Non, mais je suis désolé.
Non.
Il faut gagner.
Rien à voir. Non, alors pardon,
rien
si
à voir.
Je
t'en prie, Ludo.
Si on gagne,
mais ça, là, ce n'est pas la libre antenne, mais tu peux, Ludo.
Si on gagne,
allez, en tout cas, le sport féminin.
A été bien meilleur que ça.
S'il vous plaît, le sport féminin est-il en train de s'installer?
J'ai fâché Ludo.
Non, c'est pas ça, c'est que. Gagner ou pas, je trouve qu'il faut lui donner les moyens. C'est un peu comme la journée de la femme. Il y a une journée de la femme par an. Je trouve ça un peu ridicule. Sur le sport féminin, c'est un peu la même chose. On a des sportives aujourd'hui qui font
font des exploits incroyables. Je pense à Pauline Ferrand-Prévot. Donc ça marche, et c'est effectivement. Mais Pascal parlait d'un sujet qui me touche aussi, c'est le football féminin. Pardon, Pascal, mais
attention,
le football féminin.
Dis,
l'OL
je vais t'attraper avec un gourdin.
L'OL a dominé le football féminin pendant des années. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a tellement été mauvais. On a pris du retard à tous les niveaux. Ouais. Les stades sont pas sont pas au niveau. Les conditions des filles ne sont pas toutes professionnelles. La Ligue vient de se créer, la Ligue féminine, l'année dernière. Bah, tu penses en 2024. Résultat aujourd'hui, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ils sont largement devant nous. On doit courir après ça.
Et Montpellier, par exemple, qui est le meilleur exemple. L'OL, le problème, s'il y avait que l'OL et éventuellement le PSG, il y avait pas de concurrence. Qui arrive.
Mais Montpellier vient de dégager son équipe féminine. Je trouve que, et le budget des sports se réduit.
Que l'emballage, c'est ce que tu nous dis. Il ne faut pas se laisser tromper.
Mais non, il faut donner les moyens au sport féminin d'exister.
Le sport féminin est-il en train de s'installer en France? C'est notre débat enflammé. Tiens, avant de te donner la parole, Alizé, je veux qu'on écoute Morgane Bourgeois, arrière du 15 de France. Elle nous a parlé justement de cette opportunité de se montrer encore un peu plus au public.
On a été ensemble tout l'été, donc on a un peu suivi la compétition, notamment le Tour de France. Quand on était à Tignes, on avait pas mal de fans de vélo qui ont suivi cette compète. Donc franchement, on a vu tout l'engouement qui arrive, qui émerge autour du sport féminin. Donc à notre tour, on espère qu'on aura autant de soutien qu'on a pu en donner. On est là pour gagner, donc je pense que plus on va gagner, plus on va faire de belles performances sur le terrain, on va attirer du monde et des supporters. Donc ça va être l'objectif, de donner envie aux gens de regarder du sport féminin. J'ai plutôt suivi les garçons quand j'étais jeune, parce que finalement on avait peu d'images féminines. Donc justement, ce que je veux essayer d'inspirer aussi aux jeunes, c'est que les jeunes filles aient aussi des nouveaux modèles et qu'elles puissent apparenter à nous.
Le sacre de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France, je le rappelle quand même, a été suivi par 4,4 millions de spectateurs sur France Télévisions, avec un pic à 7,7 millions. Alizé, toi tu dis oui, le sport féminin est en train de s'installer en France.
Alors déjà, les arguments de ça sont très recevables, et je comprends complètement son raisonnement par rapport à la performance qui doit s'installer durablement grâce à une meilleure visibilité, une encore meilleure visibilité. Mais quand je lis la question mot par mot, le sport féminin est-il en train de s'installer en France? La réponse, elle est quand même oui. Et le sport féminin n'est pas installé en France encore, mais il est en train de s'installer. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, la médiatisation du sport féminin était inexistante. Donc on est en bonne voie quand même. C'est en train de faire partie du quotidien des Français.
2025, d'accord. T'imagines le truc.
Il faut pas prendre les choses comme acquis. Je veux dire, la question, c'est le sport féminin est-il en train de s'installer en France? Clairement.
On est en retard en France.
On est en retard. Moi, j'ai eu la chance de faire un sport qui était très valorisé.
Naturellement,
un sport féminin qui est naturellement
sur France Télé tous les étés, en clair.
Tout le reste de l'année.
J'ai eu de la chance de très bien gagner ma vie grâce à mon sport, ce qui n'est pas le cas d'autres sports féminins. Donc ça, c'est vraiment un énorme problème. Est-ce qu'il est en train de s'installer dans le quotidien des Français? Est-ce qu'on est en train d'en voir plus? Est-ce qu'on est en train de se familiariser avec ça? La réponse, c'est oui. C'est loin d'être parfait, mais c'est en cours.
Je pense que vous confondez avec Pascal deux choses. Vous confondez les performances de championnes immenses comme Pauline Ferrand-Prévot, qui effectivement attire des gens parce qu'elle a fait un truc qui était tellement fou, et que le Tour de France, attention, féminin, est tellement bien organisé par Christian Prudhomme et surtout Marion Rousse, qu'effectivement tu viens devant ta télé, et les structures et les moyens qu'on va donner aux filles et aux femmes qui font du sport aujourd'hui en France, qui sont sous-évaluées.
Ça veut dire quoi pour toi le mot s'installer? S'installer dans le quotidien des Français, dans leur foyer, à la télévision, ou s'installer en termes de financement, en termes de...
Si tu n'as pas de grande championne, tu verras que ça s'installera. Et je vais te prendre un exemple.
C'est exactement ce que j'ai dit. Et tu m'as contré, Ludo. On a besoin de performance. Pardon de vous couper. Aujourd'hui, c'est bien de rappeler la sémantique. Est-ce que le sport féminin est en train de s'installer? Oui, il s'installe, et les moyens sont donnés, télévisuels, récurrents, pour que le sport féminin, et tant mieux, soit visible. Je prends l'exemple de l'équipe de France féminine, je le répète, on ne leur a pas donné de moyens. Elles ont voulu dégager Corinne Diacre, ils l'ont dégagé, est arrivé à sa tête
Hervé Renard,
à grand renfort de communication, mais malheureusement, en prévision de la victoire aux Jeux Olympiques, malheureusement, ça a fait pchit. Donc fait, ils ont besoin
quart de finale.
Je comprends le coup de l'emballage. En fait, il ne faut pas se laisser leurrer par l'emballage qui fait qu'en fait, on voit plus de sport féminin, mais ça ne veut pas dire qu'en en backstage, mais en coulisses, le sport féminin est
Après la Coupe du Monde féminine de rugby, effectivement, il faudra voir ce qui est fait au quotidien pour les joueuses de rugby.
Et c'est plus important finalement que le reste.
Ouais, vous êtes tous finalement un peu d'accord, vous êtes un peu retrouvés. Attention, les grandes gueules du sport, normalement, il faut y aller, hein, les amis. Hein. Mais c'était très intéressant. Et je suis sûr que ça va aller dans quelques instants.
Mais parce que les arguments sont tellement bons.
Bien
que
sûr.
Et puis, tu nous laisses pas tout développer.
Mais non.
Ah ouais, attendez, vous voulez quoi qu'on fasse un podcast?
Si tu nous laisses tout développer.
Non, mais en plus, là, vous êtes tous potes, c'est super. Mais dans quelques instants, on va lancer les jeux du sport. Et là, ça va pas être la même histoire. Allez, à tout de suite, RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Alizé Cornet, avec Ludovic Duchesne, avec Sarah Pitkowski, ça continue de débattre pendant la pub. C'est comme ça, les grandes gueules du sport.
Hein, Sarah a encore des arguments.
Ah oui, Alizé aussi. On fera peut-être un podcast après, on va regarder. Allez, les amis, tout de suite, grande nouveauté dans les grandes gueules du sport. On va jouer.
RMC, les jeux du sport.
Ce sont les GG du sport, donc ce sont les jeux du sport. Voilà. Avec Maxime Abola, producteur.
Une déclaration avant.
Ah oui.
Est-ce que je peux donner mon numéro de téléphone en direct pour qu'on puisse m'envoyer les réponses?
Ah d'accord.
Non,
ah, risque, ouais.
C'est pas sûr quand on voit que les réponses.
Posez votre téléphone.
Alizé, tu débarques sur RMC. Il y a de grandes histoires de tricherie dans les jeux sur RMC, notamment dans le Kikadi.
Je déteste la tricherie. Je suis intolérante face à la tricherie.
Je vous explique le principe des jeux du sport. C'est du 2 contre 2 et vous allez défendre un auditeur. On a fait un tirage sort avec Maxime Abolin ce matin. Voilà les équipes. Sarah avec Pascal et Alizé avec Ludo.
Oui.
Et vous allez défendre donc des auditeurs qui peuvent gagner.
C'est maintenant qu'on va tourner une équipe.
Oui. Enceinte portable 1010 de Lexon. J'accueille Johan au 32-16. Salut Johan.
Salut Georges.
Bon, bonjour. Avec qui tu veux jouer? Avec Alizé et Ludo ou avec Sarah et Pascal?
C'est horrible de poser la question.
J'aime beaucoup Pascal, donc je vais prendre l'équipe de Pascal.
Traître.
Tu fais le bon choix.
Espèce de traître.
Donc il veut perdre, c'est dommage.
Et donc Antoine, que j'accueille au 32-16. Salut Antoine.
Salut l'équipe, salut à tous.
Bon, t'es avec Alizé.
T'as pas le choix, Antoine.
Et Ludo, c'est pas mal quand même, franchement.
C'est parfait, c'est l'équipe que j'aurais
fait.
Oui, Antoine. C'est incroyable. Bon,
rester sur Ludo quand même.
Je vous explique les règles. Ce sont des questions de culture sport, entre records. On va passer les archives aussi, mais aussi l'actualité sportive. En fait, c'est comme un Trivial poursuite, sauf que vous tombez toujours sur la question orange, le camembert orange pour la question sport. Exactement. Donc, il faut tous bien écouter. Il peut y avoir des questions avec une seule réponse, par exemple, où vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, sinon vous serez éliminé. De toute façon, je vais vous expliquer à chaque fois. Allez, questions pour les deux équipes d'abord. Je rappelle, Alizé, Ludo, Sarah et Pascal. Vous pouvez donner plusieurs réponses sur celle-ci. Écoutez bien, Venus Williams participe à l'US Open à 45 ans. Ce week-end. En quelle année a-t-elle disputé sa première finale?
C'est un truc de rapidité ou pas?
Non, vas-y,
Alors, tu sais ou pas? Parce que.
Sarah,
c'est le premier.
Alors, dis-tu
une date?
Sa première finale.
2002.
Non, pas du tout.
En quelle année a-t-elle joué sa première finale?
Non, non, c'est
97, Pascal.
Sarah.
Mais si les règles sont pas déjà bien établies, ça va pas, quoi.
Sarah, accroche-toi derrière, ça fonce. Allez, 97.
97.
Mais il est en train de googler sur son téléphone.
Non, alors là, attends, je vais rectifier. Je voudrais rectifier. Max peut en témoigner. J'ai dit pas de téléphone. Moi, je supporte pas la tricherie.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est en 97? Moi, j'aurais dit 99.
1997, défaite
par Martina Hingis. 1-0, Sarah, arrête.
1-0 pour la team Sarah et Pascal. Question pour nos auditeurs.
C'est Pascal qui donne la réponse.
Que les auditeurs. Attention, que les auditeurs peuvent répondre. Johan et Antoine, vous êtes là, les amis?
Allez, Antoine.
Oui.
Allez, la Coupe du Monde de rugby féminine a commencé ce vendredi soir. Où se dispute-t-elle?
En Angleterre.
En Angleterre. Oh là là,
c'est Antoine,
en même temps.
C'est Antoine, j'ai entendu.
Non, c'est Johan.
Non, c'est Antoine.
C'est Antoine. Allez, c'est Antoine qui a quelques centièmes.
Ouais. Oh, Johan. Oh, Johan, tu mets. Prends un guronzan, s'il te plaît. Allez, Johan, oh.
Question au GG. Arthur Fils, c'est à vous, hein, les amis. Arthur Fils, forfait à l'US Open, notre numéro 1 français. Quel est son meilleur résultat en grand chelem cette année?
8e de finale.
Huitième de finale?
Ah, non, il a
grand chelem.
C'est pas bon.
Quart de finale.
J'ai répondu trop vite. Mais non, mais en même temps, c'est normal, il a fait que deux grands chelems et il s'est blessé au deuxième.
Ah oui, d'accord. Donc, du coup, on peut pas poser cette question.
Non, mais donc je suis bête. Je viens de dire que je suis bête.
Ça vaut un point, ça.
Ça fait un point.
Bravo, Sarah.
Deux points pour Sarah et Pascal. On continue, les amis. Question à élimination. Je vais vous demander les champions olympiques français à Paris 2024. Vous allez chacun votre tour essayer de me donner le nom d'un champion olympique français. Donc ça peut être un champion, une championne ou un sport collectif. Le premier qui ne trouve pas
que des médailles d'or, alors,
a perdu. Exactement. On va commencer tiens, par l'équipe qui est derrière. Ludo et Alizé, un champion olympique français.
Teddy Riner,
c'est bon. Équipe Marchand. Sarah Pascal. Marchand, c'est, okay, bon. Allez, Ludo et Alizé.
Putain, il y en a tellement.
Et on a gagné là. C'est bon, on a gagné.
Il y en a eu 16. Donc le marchand.
Non, on l'a déjà dit.
C'est déjà dit. Ils ont perdu là-haut.
Déjà dit, c'est perdu. Ça fait donc 3 pour.
Mais c'est une vraie.
Mais ils ont perdu parce qu'ils ont donné les mauvaises réponses.
Mais j'ai juste pas écouté Pascal, c'est tout.
Ouais, mais non.
C'est hyper difficile.
On peut pas donner une seconde chance là sur ce.
Vous êtes dur. Même Sarah, elle demande
une seconde chance là-dessus, non?
Mais non, parce qu'il faut qu'on avance, les amis. C'est comme ça, c'est la loi du sport. C'est
ouais, je suis en train de plomber l'équipe. Antoine, pardonne-moi.
Allez, question aux auditeurs. Johan et Antoine, ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est qu'avant de donner votre réponse, vous dites votre prénom pour qu'on rentre très rapidement.
3-1 pour nous.
Johan et Antoine, je rappelle que Johan est avec Sarah et Pascal, Antoine avec Ludo et Alizé. Qui a terminé deuxième du Tour de France cette année?
Antoine Vingegaard.
Non, attends. Hey, c'est pas Johan Vingegaard, ok? Vingegaard. C'est pas Johan, je conteste.
Non, il a dit
c'est Jonas.
Antoine, il a dit son prénom.
Ouais.
Non, il a
c'est
dit
Antoine
Johan.
Ça, c'est moins
un,
Pascal, par
contre.
C'est moins.
3-2, vous revenez, équipe Ludo, Alizé. On va se faire une petite question relive. On va écouter une archive sonore et la question viendra ensuite.
Il avait très très peu roulé dans la journée du vendredi. Après les qualifications, lui-même avait dit « Je ne sais pas où on est complètement perdu, la monoplace n'est absolument pas efficace. » Et voilà, il franchit maintenant la ligne et l'arrivée Lewis Hamilton, félicité par toute l'équipe Mercedes. 7e titre de champion du monde qui fait de lui l'égal de Michael Schumacher. 94e victoire en Grand Prix, la 10e de cette saison. Il a réalisé un parcours absolument sans faute, Lewis Hamilton, en commettant juste une très légère erreur de trajectoire. Un moment, Sergio Pérez va terminer deuxième de ce Grand Prix.
Bon, je vous préviens, ça peut être une balle de match. Hein. Vous avez entendu Lewis Hamilton sacré pour la 7e fois. La question que je vous pose, les deux équipes, en quelle année a-t-il gagné son premier titre de champion du monde, le Britannique? Tentez les choses.
2009,
non.
T'as dit que c'était éliminatoire, donc il est éliminé.
2010.
Alizé.
2012.
Non, allez-y, continuez.
2013.
Non, continuez.
2015, 2016, 2017,
2004.
Premier titre.
Ah,
2008.
2008, Pascal. Bon.
Yeah.
En même temps, quand on dit toutes les années, à un moment donné, on tombe dessus.
C'est donc l'équipe de Pascal et de Sarah qui s'imposent.
Bravo, Sarah. Bravo, Sarah. Bravo, Sarah.
Jeu du sport.
Bravo, Sarah.
Et c'est donc Johan qui remporte ce jeu.
Ça s'appelle de la résilience.
C'est tellement pas juste parce qu'Antoine, il a répondu les deux fois correctes. Et nous, on l'a plombé, quoi.
Petite triste comme ça, du coup. Johan, tu as gagné une enceinte portable Mino 10 de Lexa. Félicitations.
Merci à l'équipe.
Alors, c'est rien, Johan, t'inquiète, on est content pour toi.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Merci les GG du sport, on va prendre nos repères dans les GG du sport. Vous allez vous habituer. Alizé est effondré.
Non mais on a déconné sur le champion olympique là, je m'en remets pas.
Franchement, deux fois marchand. Merci beaucoup Sarah, merci Alizé pour cette première.
En même temps, il a été plusieurs fois champion olympique, ça pouvait marcher.
Bah oui. Oh non, mais attendez, oui, quand on passe
la réclamation.
Ludo Duchesne, merci Pascal Duprat. Je te remercie également. Demain, on te retrouve Alizé. Il y aura également Ludo, il sera là. Julien Beneteau et Jérôme Pinault pour les accompagner. On vous retrouve demain tout de suite. C'est les Paris RMC.
Ciao, ciao. Merci à tous.
Ciao.